Bien, bon matin. On est ensemble et on est privé un peu de chanter comme autrefois, mais la COVID ne nous a pas enlevé. La musique, c'est merveilleux. Merci pour toute l'équipe. L'équipe de louanges, c'est merveilleux d'entendre de la musique live. Hein? Gloire à Dieu. Bien, on va continuer ce matin notre étude de la semaine passée qui... Je dois avouer qu'il y a tellement de matériel que j'ai passé la semaine à en enlever. Et je vais essayer, par la grâce de Dieu, de dévoiler ce plan, le maître plan. Vous savez, les êtres humains peuvent avoir des plans, ils sont dérangés. La preuve, c'est que on avait peut-être prévu des rencontres, on avait peut-être prévu des conférences, on avait peut-être prévu toutes sortes de choses, puis la COVID a fait en sorte que ça dérange les plans. Tous les plans du monde entier sont dérangés par tout cela, mais Dieu, qui est en contrôle de tout, qui voit tout, qui prévoit tout. Dieu, lui, a un plan, un grand plan. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce qu'on est dans le livre de Malachie, et le livre de Malachie est un livre extrêmement important, parce qu'il va relier l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le pont. Il va y avoir 400 ans de silence entre les deux. Et on a dans ces 400 ans de silence l'histoire des guerres, des Maccabées, etc. Et on voit que le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament se fait à cause du plan merveilleux de Dieu. Le Messie arrive. La bonne nouvelle arrive. L'Évangile arrive. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et que Malachie va pointer du doigt certaines choses qu'on va regarder ensemble ce matin. Donc, on a vu la semaine passée le rétablissement du reste fidèle que Dieu va... venir au jour de l'Éternel, le jugement des méchants, c'est-à-dire, à quelque part, ceux qui sont méchants puis croient qu'ils s'en ont tiré de cette vie, un jour vont comparaître devant Dieu et Dieu va juger le bien et le mal, il va définir le bien et le mal puis il va juger les méchants. Et on a vu aussi que Jésus revient auprès du reste, et ça c'est le jour de l'Éternel, c'est le mont des Oliviers qu'on va voir un petit peu encore aujourd'hui. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, on va aller dans la prochaine étape. Dernière exhortation à l'obéissance à la loi de Moïse et la promesse de la venue du prophète Élie. Et ces versets de 4 à 6, des versets extrêmement importants dans l'Ancien Testament. On dit l'Ancien Testament, mais est-ce qu'on pourrait l'appeler le Premier Testament puis le Deuxième Testament pour le Nouveau Testament? Quand on dit Ancien Testament, on pense que c'est dans le passé, c'est fini, il n'y a plus rien là. Mais non, c'est une continuité, ça continue. La révélation de Dieu continue et Dieu nous parle au travers de sa parole, la parole de Dieu. Et il faut savoir aussi que, point de vue prophétique, parce que c'est l'aspect prophétique que nous allons voir ensemble, que l'aspect prophétique de l'Ancien Testament est extrêmement important. Vous savez, 17 livres sur 39 sont des livres prophétiques, des livres qui parlent de l'avenir, des livres qui parlent du plan de Dieu pour l'humanité, du plan de Dieu pour toutes les nations, le plan de Dieu pour Israël, oui, mais toutes les nations sont impliquées dans tout cela parce que Dieu a fait des promesses et Dieu va bénir le monde entier. Toutes les nations vont être bénies par l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité. Et on peut regarder ensemble aussi la mention de Moïse, pour commencer, lorsqu'on arrive à ces versets 4, on lit ceci. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Hérob, c'est-à-dire au Sinaï, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Alors, le conseil que Dieu donne à Israël de l'époque, à 400, ou disons 460 années avant la venue de Christ environ, il y a un conseil qu'il donne à Israël, le reste d'Israël. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous des ordonnances. Souvenez-vous des cinq premiers livres de la Bible. Souvenez-vous ce que Dieu dit. Il y a des préceptes et il y a des ordonnances. Rappelle-toi de cela. Et on peut s'approprier cette exhortation pour nous de nos jours en 2020. Il faut se rappeler ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit quelque chose dans le passé, c'est aussi vrai aujourd'hui dans le présent. Les choses qui sont bien dans le passé, c'est aussi des choses bien dans le présent. Les choses qui sont mal dans le passé, c'est aussi des choses mal dans le présent. Donc, Dieu définit lui-même le bien et le mal. Et non pas nous, selon notre humeur, du matin, lorsqu'on se lève le matin, puis on va décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu qui décide cela. Donc, on doit se souvenir, nous aussi, point qu'Israël, nous aussi, on doit se souvenir des ordonnances et des préceptes de Dieu. Et lorsque le clin d'œil arrive là, puis là, j'ai mis ici Pierre dans Actes 3, 22 et Étienne dans son discours qui va résumer l'Ancien Testament, juste avant d'être lapidé, il va dire ceci. Moïse dit, le Seigneur, on va retourner, il y a un lag qui se fait, c'est assez long. Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Pierre et Étienne vont dire la même chose. Ils vont citer justement l'Ancien Testament pour mentionner Moïse. Moïse qui avait dit, un jour, il va arriver quelqu'un qui va être comme moi, qui va parler au nom de Dieu, qui va dire la vérité, qui va conduire le peuple. Écoutez-le, écoutez-le. En passant, il y a le même conseil aux noces de Cana que Marie a donné hein, aux serviteurs. Écoutez ce que j'ai dit. Faites ce qu'il vous dit, Jésus. Vous allez être correct. Alors, c'est important pour nous ce matin de réaliser, d'écouter ce que Jésus dit. C'est important, c'est vital même, je pourrais dire, pour notre âme éternelle avec lui. Alors, on voit cela. Moïse est mentionné. Il y a la mention d'Élie aussi dans ses courts versets. Mention d'Élie qui servait à annoncer la venue du Messie. Et voici le verset 5, on dit ceci. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. » Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, on voit ce verset aussi, nous dit une prophétie, quelque chose qui va arriver dans le futur, qui va arriver avant le jour de l'Éternel. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Il va arriver avant. Donc, c'est comme une station de métro. Hein? On est à la station. Telle station, on s'en va à l'autre station. Et là, on regarde dans le passé. Là, 400 ans, environ 400 ans, 460 ans avant la venue de Jésus. Et là, on est dans le passé, nous. On a embarqué d'une machine à reculer dans le temps. Puis on est là 400 ans en arrière, puis on regarde vers l'avant. Mais le problème, c'est que nous, on est en 2020, puis on regarde vers l'arrière. Il faut regarder vers l'avant. Imaginez-vous, là, on est dans une sorte de machine, on est rendu à 460 avant la venue de Christ, et le prophète nous parle. Il va arriver que Élie va revenir. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, là, ce verset-là. Là. Il y a des livres qui ont été écrits, et j'ai même eu le privilège de rencontrer, dans 1980, un homme qui est venu dans notre assemblée et il s'est présenté, puis il a dit qu'il était l'Élie qui devait venir. Alors, on reste surpris hein, quand on entend ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais résumer le mieux que je peux ce matin par la grâce de Dieu, si vous êtes patient avec moi. Résumer un peu cette grande vérité, cette belle promesse prophétique que nous avons ici par la parole de Dieu. Donc, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que les paroles de Jésus, on va voir l'histoire ensemble tout à l'heure, Jésus va dire, lui, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Alors, on a Malachie qui dit « Il va venir », puis on a Jésus qui dit qu'il est déjà venu. Waouh! Où qu'il est venu? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est Malachie? Hein? Où est-ce qu'il est? Non, pas Malachie. Est-ce qu'il est Élie qui est mentionné dans Malachie? Voyez-vous? Alors, on va regarder ensemble une lecture de Matthieu 17, 1 à 6, mettre dans un contexte. Ça va venir. Bon, merci. Alors, voici 6 jours après. 6 jours après quoi? 6 jours après avoir dit à ses disciples que quelques-uns d'entre eux ne mourront point tant qu'ils aient vu, jusqu'à ce qu'ils aient vu la gloire de l'Éternel. Et là, ça a suscité parmi les disciples tout un questionnement. Ils ont dit, « Wow, ça va être l'établissement du royaume d'Israël, ça va être ça. » Mais ce qui est arrivé, c'est que dans Matthieu 17, on voit que 6 jours après avoir dit ça, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Quel événement! Encore pire, regardez ce qui arrive là. Oh, des visiteurs! Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Pierre, voyez-vous, Pierre, toujours le premier à parler, hein? Pierre, il dit, prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Trois tentes, hein? On est les êtres humains, nous autres. On est habitués de faire des dénominations, hein? On a une gang qui va adorer Élie, une gang qui va adorer Moïse, une gang qui va adorer Jésus. Wow, wow, non, 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 non. C'était pas le plan. C'était pas le plan de Dieu. Et comme il parlait encore, comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui, hein, j'ai mis toute mon affection. » Quoi? Écoutez-le. Écoutez les préceptes et les ordonnances de Moïse. Écoutez ce que Marie dit aux serviteurs. Faites ce que Jésus dit. Et la voix du ciel du Père dit à Pierre, Jacques et Jean, fais ce qu'il dit. Jésus seul. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. On ne passera pas tout le temps dans cette histoire, mais je voulais souligner ici l'importance de Moïse et de Élie. L'importance de savoir que Jésus est le seul sauveur. Ce n'est pas Élie qui est sauveur, ce n'est pas Moïse qui est sauveur, c'est Jésus qui est le sauveur. Et alors, on va aller un peu plus loin. Je vais faire remarquer ici le lien prophétique qu'il y a dans cette histoire. Le lien prophétique qui est confirmé par Jésus. Alors, on voit ici, au verset 10, les disciples leur posèrent cette question. Là, ils viennent de voir, souvenez-vous, là, ils viennent de voir Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus dans la transfiguration. Ils viennent de voir un avant-goût du glorieux ciel avec Dieu. Ils viennent voir Jésus glorifié avant la crucifixion. Et là, ils ont vu un échantillon, si vous voulez, un teaser, comme on dit en anglais, un teaser de qu'est-ce que ça va être dans l'au-delà. Et les disciples, ils se rappellent que Malachie disait qu'Élie devait venir avant. Et là, ils vont poser la question. Ils vont poser la question à Jésus. Les disciples leur posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi qu'ils disent ça? Ils vont venir premièrement. Ils viennent de le voir. Alors, est-ce qu'Élie va revenir sur la terre pour assister Jésus? Est-ce qu'Élie va prendre la place de Jésus? Non, non, du tout. Regardez bien ce que Jésus va répondre. Les paroles mêmes de Jésus. Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir. » et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Oups! T'as Jésus qui est là, qui dit qu'Élie est déjà venu. T'as Malachie qui dit qu'Élie va venir. Il était où, Élie? On a vu Élie dans la transfiguration. Élie, il est déjà venu. Mais je vous dis qu'il est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part, qui annonce sa crucifixion. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il n'avait pas le bon nom. On aurait dû l'appeler Élie. Mais l'Élie qui devait venir était animé du même esprit que Jean-Baptiste qui venait. Vous savez, j'ai transporté un piano avec un homme il y a plusieurs années, je ne le ferai pas aujourd'hui, là, juste ici en face, le piano Hélène. Et ça me prenait un Hercule. J'étais sur un bout, Maurice Ricard sur l'autre bout, Puis à deux, on a réussi à descendre le piano des grands escaliers étroits qu'il y avait là. Mais le gars qui était en arrière, il avait du bras. C'est un Hercule. Avez-vous déjà entendu parler? Hey, c'est un Hercule, ce gars-là. Il est fort comme un ours. Avez-vous déjà entendu parler de ce qui est semblable un à l'autre? Et c'est exactement cela qu'on doit voir ici. Jésus dit, il est déjà venu, Élie. L'esprit qui animait Élie a animé Jean-Baptiste. C'est le même esprit qui est venu pour avertir, pour dire, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, pour être un précurseur de Jésus-Christ, celui qui annonce Jésus-Christ, comme on va voir plus tard. Alors, Jésus, c'est de la bouche même de Jésus. Donc, Malachie, on voit ici, Malachie, 460 années avant la venue de Christ, avant la venue de Jean-Baptiste, a prophétisé Jean-Baptiste, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Entre les deux, Élie est déjà venu. Donc, le monsieur que j'ai rencontré des années 80, qui se disait l'Élie qui devait venir, c'était un faux Élie, c'était un faux prophète. Alors, l'Ancien Testament est plein. Et là, j'ai éliminé un paquet de versets parce que je me suis dit, on n'aura pas le temps de passer au travers de tout ça. Isaïe 43, « La voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Une citation de Matthieu 3:3. La même chose. On dit de Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste? C'est une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Qui est venu? C'est Jésus qui est l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Qui est venu? C'est Jésus, le Dieu incarné, 100% Dieu, 100% homme, qui est venu marcher sur cette terre. Voyez-vous, l'aspect prophétique de Malachie nous emmène directement à la naissance de l'Évangile, à la proclamation du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Voyez-vous, quand Jean-Baptiste a vu venir Jésus pour se faire baptiser, il n'a pas voulu au début, il a dit, non, c'est à moi d'être baptisé par toi, je ne suis pas digne de lasser tes souliers, etc. Jésus dit, fais-le, il faut que tu le fasses. Il y avait une signification d'identification de Jésus avec Jean-Baptiste dans ce témoignage qu'il faisait. Et regardez ici dans Jean 1, 34 et 36, j'ai rendu témoignage qu'il est, parlant de Jésus, le Fils de Dieu. Voici ce que Jean-Baptiste disait. L'Élie qui devait venir présentait Jésus, le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Verset, ça va venir. Bon, OK. Je pèse deux fois, je saute une autre fois. Il faut faire attention. Alors, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, dit, « Voilà l'agneau de Dieu! » L'Élie était venu pour préparer le chemin, aplanir les sentiers du Messie qui était promis par Malachie. Voyez-vous comme c'est important, Malachie, trois derniers versets de Malachie, qui lit prophétiquement l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-tu merveilleux, ça? Dieu a un plan. Il n'y a pas trois, quatre plans. Il y a un plan pour l'univers. Et Dieu est en train d'accomplir ce plan-là devant nos yeux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'Élie qui devait venir, qui est Jean-Baptiste, était celui qui a proclamé que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est l'agneau de Dieu. Et encore là, l'agneau nous ramène dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps de voir ça, mais on nous ramène dans l'Ancien Testament. Il nous ramène à Moïse. L'agneau pascal nous ramène à Moïse, lorsque Moïse a mis sur les linteaux le sang des brebis pour que l'ange de la mort passe, saute par-dessus. Alors, on voit l'Ancien, le Premier Testament et le Deuxième Testament est important et lié ensemble. Maintenant, encore dans ces textes, on est encore devant cette phrase, le jour de l'Éternel. Et là, je vais tenter de vous faire un résumé de tout ça. Parce qu'à quelque part, il y a un petit quelque chose d'extraordinaire qui arrive, là. La nation d'Israël, Malachie, lui, regarde le jour de l'Éternel à l'autre bout. Mais au travers du jour de l'Éternel, avant le jour de l'Éternel, après la venue d'Élie, il arrive quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour avoir le jour de l'Éternel, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et les saints que là, c'est les enfants de Dieu, c'est son épouse, c'est son Église. L'Église doit exister pour que le jour de l'Éternel arrive. Est-ce que vous comprenez? Faites un petit hochet de tête. Ça a-tu de la lue, ce que je dis? Et là, ce mystère caché de toute éternité qu'on va voir un petit peu, qu'on voit dans Éphésiens 3, 9, qu'en Colossiens 1, 26, dans Romains 16, 25, il y a tellement de textes qui nous rappellent tout cela. C'est que ce mystère caché de tous les siècles que Paul nous révèle fait en sorte qu'on réalise qu'il y a une parenthèse avant d'avoir la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire, excusez, on a l'Église qui vient s'insérer dans cela. Et le plan de Dieu fait en sorte qu'il y a un parallèle entre Israël et l'Église. C'est le même plan, mais un parallèle qui s'en va au jour de l'Éternel. Parce qu'au jour de l'Éternel, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, vient sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers va être fendu par le milieu, comme on a vu la semaine passée. Et ça va être l'établissement du 1000 ans de paix que Dieu promet, le millénium. Donc, vous pouvez voir ici que notre position doctrinale eschatologique, c'est pré-mille. C'est très clair pour ceux qui suivent ça théologiquement. Alors, il faut réaliser ici que l'Église vient comme une parenthèse, comme une bulle dans le milieu avant le jour de l'Éternel. Et Malachie en parle du jour de l'Éternel. Donc, regardez ce que Zacharie 12, 10 nous dit. Parce que le jour de l'Éternel, ça va être un jour extraordinaire pour Israël. Parce que alors Dieu va dire ceci, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Qui ont percé? Comment se fait, vous savez ça? Ah, vous croyez ça, que vers l'entrée de notre ère, Jésus est monté sa croix, il a pris nos péchés pour en faire ses péchés, puis il a pris sa justice pour en faire notre justice? Vous êtes des enfants de Dieu. Ah, vous êtes les saints, les mis à part pour Dieu, qui allaient revenir sur le mont des Oliviers. Hey, c'est merveilleux, ça! C'est merveilleux, parce qu'il y a un petit secret de famille entre les deux aussi, hein, qu'on n'a pas le temps de parler. Ils se tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Regardez la repentance d'Israël. Et c'est ça qui est le jour terrible, comme je disais la semaine passée. C'est des jours de bénédiction et de malédiction, les deux. C'est un grand jour où Israël se repent et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un quoi? Un nouveau-né, en importance, prototokos. C'est merveilleux. Et là, j'imagine CNN, LCN. Là, on parle même de la COVID, là, mais on va arrêter de parler de la COVID, mais que ça arrive. Puis on va regarder, puis il y en a qui vont dire, hey, on est à l'équipe d'être secours volante. Non. L'Éternel s'en vient. Et ça va paniquer, laissez-moi vous dire ça. Parce qu'Israël va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Le nombril de Dieu. Si on lit nos Bibles, il faut s'asseoir en Israël, en Jérusalem. C'est là que ça se passe. Ça va tout se passer là. Pierre d'Espagne a écrit un livre entier qui s'appelle Horloge de Dieu. Hein? Pierre pesante pour toutes les nations. Et à quelque part, mes amis, le plan unique de Dieu, c'est avec son épouse, venir chercher le reste fidèle que Malachie prophétise. Matthieu 24, on ne peut pas parler de ça sans aller dans Matthieu 24. Je vous dis, c'est un résumé que je fais là. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra du ciel. Il va y avoir quelque chose qui va éclabousser l'atmosphère. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est Jésus qui dit ça, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un faux prophète. C'est le Fils de Dieu qui dit ça. Les nations de la terre vont le voir. Puis on est avec le satellite aujourd'hui, puis avec la TV, le monde entier, 20 dans 20. On va tout voir ça. Écoute, il y a une chicane de clôture en Russie, puis on est au courant. Écoute les nouvelles, là, moindrement. Là. Il y a deux propriétaires de terrain en Russie qui chicanent pour une clôture. Hey, on sait ça. Imaginez-vous lorsque ça va arriver, comme je disais tout à l'heure. Toutes les TV vont être tournées vers cela. Mais ils vont voir le Fils de l'homme venir. Et c'est là que le jour de l'Éternel va arriver et que Dieu va établir son mille ans de millénium de paix. La mention de Moïse et Élie servent à annoncer la venue du Messie dans Malachie 4:6. Et là, on arrive à l'aspect spirituel de tout cela. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a l'aspect pastoral. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne se présente pas comme un père. Il se présente comme un Dieu. C'est Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans le Deuxième Testament, il se présente comme un père. Relation filiale avec Dieu par l'Église. Parce que ce qui arrive dans cela, mes amis, c'est qu'il faut savoir dans le temps de la grâce dans laquelle nous sommes. Bon, on va rester là pour que vous puissiez voir cela. La relation filiale avec Dieu et Dieu le Père dans l'Ecclésia, c'est que Dieu, dans son plan, dans le temps de grâce, dans le temps de l'Évangile, les Juifs et les non-Juifs ont accès à la grâce de Dieu pour devenir l'épouse. Et dans son grand plan merveilleux, Dieu a prévu l'unité des Juifs et des païens en Christ, les Juifs et les non-Juifs. Il s'agit là d'une vérité nouvelle qu'on voit dans le Nouveau Testament, parce que ça a été caché dans le Premier Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est révélé que les Juifs et les non-juifs, les païens ou les gentils, ont accès à la grâce de Dieu pour devenir l'épouse. Cette parenthèse dans l'histoire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu se présente comment dans le Nouveau Testament? Dans le Deuxième Testament? Comme quoi? Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un père. Il se présente comme un père aux gentils, aux païens, aux non-juifs, puis il se présente comme un père aux juifs aussi. Dans le moment où je vous parle, il y a un grand réveil à Israël. Je lisais la semaine passée. À 72 ans, il y avait 3 familles chrétiennes en Israël. Aujourd'hui, il y a 30 000 chrétiens nés de nouveau en Israël qui font une révolution. Et One for Israel, si vous avez accès à l'anglais, C'est un ministère d'évangélisation parmi les Juifs en Israël, en langue hébreu. Et les gens se convertissent. Des gens qui découvrent Jésus. Ils découvrent Isaïe 53, qui est un chapitre interdit. Ils découvrent la parole de Dieu. Ils découvrent les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Messie qu'ils vont percer. Les versets que je vous ai lus. Ils découvrent cela. Les rabbins n'enseignent pas cela. Ils enseignent la Torah orale. Et mes amis, on a le privilège, dans l'an de grâce 2020, on a le privilège d'avoir des Juifs, des non-Juifs qui forment l'épouse, l'Église. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et l'apôtre Paul, je ne sais pas si je dois mentionner, Romains 9, 10 et 11, si vous avez du temps pour étudier ces 3 chapitres primordiaux là-dessus. Il y a tellement de matériel dans cela. Mais pour nous, ce matin, réalisons que Malachie se termine là. Il se termine en disant que Dieu n'a pas oublié Israël. Le reste Dieu va ramener le reste au pied de la croix. Et le reste qui reste, lorsqu'il va arriver avec son épouse sur le mont des Oliviers, vont voir celui qu'ils ont percé, ils vont pleurer, ils vont se repentir, puis ils vont accepter Christ. Il va y avoir une conversion nationale d'Israël. Ça va être tout un événement. Il ramènera les cœurs des pères et leurs enfants à leurs enfants et des enfants de leurs pères. C'est un mystère, Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, on est de ceux qui croient qu'on doit évangéliser même les Juifs. Vous savez qu'il y a des évangéliques qui ne veulent pas évangéliser les Juifs, hein? Ils ne croient pas à ça. Ils croient plutôt que l'Église, c'est Israël, puis Israël, c'est l'Église. C'est faux. Il faut savoir que c'est un mystère révélé aux enfants de Dieu, qu'on forme un même corps en Christ par l'Évangile, et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ qui allons un jour venir avec lui mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Et Dieu va arrêter cette folie terrestre de méchanceté. Vous savez, des fois, on écoute les nouvelles et on se dit, « Hey, ça fait dur, hein, ça, le monde. Les pères qui tuent leurs enfants. C'est même des mères dans le bain. Ça va-t-il arrêter un jour, ça? La violence, la haine. Regardez le racisme que c'est en train de faire aux États-Unis, là. C'est en train de détruire ce pays-là par l'intérieur. Ça va-t-il arrêter un jour, ça? Oui, ça va arrêter un jour. Parce que le propriétaire de l'univers va fermer la boutique. Il va dire, c'est fini, là. C'est fini, là. Puis vous lirez Matthieu 25, quand Dieu va épurer la race. Et certains vont rentrer dans le millénium, puis d'autres ne rentreront pas. Selon la sagesse de Dieu. Alors, c'est toute une prophétie, n'est-ce pas, qui devrait nous encourager à persévérer dans le Seigneur, de savoir que malgré les nouvelles qu'on entend, malgré tout ça qu'on entend, Dieu n'est pas dépassé par ça, ces affaires-là. Dieu a un plan. Il y a un maître plan. Puis dites-vous une affaire que Dieu dit, il fait. Ce que Dieu dit qu'il va arriver, ça va arriver. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai, mes amis. C'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on fait ça ici, malgré la COVID, malgré les inconvénients qu'on a maintenant. On fait cela dans cela. La croix. Je me suis dit, ils vont mettre une croix dans le milieu pour me dire, regarde le temps. Il est quelle heure? Je ne vois pas l'heure, c'est... Il est moins 10, ça se peut-tu? OK. La croix. Regardez bien. Je ne vous chanterai pas une chanson, mais en chanter tout à l'heure, là. Mais regardez bien tout ce qu'on vient de voir. J'ai fait ça dans une présentation. C'est petit un peu. Je ne sais pas comment vous allez voir cela. On a vu Malachi, il parlait de Moïse et Élie. Mais Malachi, lui, il voyait le jour de l'Éternel. Il ne voyait pas l'Église nécessairement. Il ne sait pas, là. C'est comme un prophète de montagne en montagne, comme la semaine passée, on a vu. Il dit, oui, mais il va venir, Élie. Mais là, on apprend qu'Élie, c'est Jean-Baptiste. Il est venu. OK. Là, on apprend que l'Église existe. Pourquoi que l'Église existe? Parce que l'Église vient le jour de l'Éternel. L'Église est avec son Sauveur pour venir sur le mont des Oliviers pour aller chercher Israël. C'est une belle histoire d'amour unique. Et là, il vient sur le mont des Oliviers parce que l'Église doit être là pour aller là. Et là, il vient établir 1000 ans de paix. C'est ce que Malachi a vu. Malachi a vu, sans le savoir, il nous a donné accès à tout cela. Je vais reculer parce que j'ai fait... J'avais oublié de mettre. Attends un petit peu. OK, c'est ça, le 400 ans de silence ici. Regarde la barre noire, là. C'est 400 ans de silence. J'ai oublié de le mentionner. C'est un vide, là. Dieu se tait. Puis recommence à parler avec Jean-Baptiste. Crie dans le désert. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. le Milan à l'œil, là. Vous en pensez? C'est compliqué? C'est peut-être complexe, mais compliqué, non. C'est une histoire d'amour unique. Un plan magistral. Un plan que Dieu aime l'humanité. On parle tellement des races aujourd'hui qu'on vient, ça devient confus, hein? On parle des genres, on ne sait plus si c'est un homme, une femme ou pas un homme, pas une femme. Il y a un gars qui donnait son témoignage, il est né comme un homme, puis là, il se dit une femme, puis il va peut-être être un homme plus tard. Tu sais, c'est confus aujourd'hui, toutes ces affaires-là, hein? Mais dites-vous une affaire, il n'y a pas de confusion avec Dieu. Pas de confusion. Dieu a dit, Dieu va accomplir son plan. C'est demain que ça va se passer. Parce qu'il aime l'humanité. Il a créé Adam et Ève, on est issus du même sang, nous dit Actes 17. On a le même sang qui coule dans nos veines. Je disais ça à ma petite fille l'autre jour, Elisabeth. On est du même sang. Hey, elle a 7 ans, puis elle vient me dire « Black Lives Matter ». Je dis « Oui, Black Lives Matter, oui. White, yellow, red, carotté, n'importe quoi, n'importe quel. T'es humain. Mais aujourd'hui, on a divisé les hommes dans la haine. » En tout cas, ce n'est pas mon sujet à matin, là, excusez-moi. Jésus revient, es-tu prêt? Il est venu, il revient. Il y a un livre entier qui a été écrit, avec, c'est pris le titre du livre. Jésus revient, es-tu prêt? Ce n'est pas vainement qu'on se rapproche de Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas vainement qu'on prie Jésus. Ce n'est pas vainement qu'on adore Jésus. Ce n'est pas vainement qu'on lit la Bible. Ce n'est pas vainement qu'on sait que Dieu va régler ces choses-là. Qu'on peut trouver la joie malgré toutes les déchéances qui existent. Qu'on peut trouver la joie dans le Seigneur, la joie dans notre salut en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu a des promesses pour les enfants de Dieu. On peut s'attacher à ces promesses. Il va revenir. Un signal donné à la voix d'un archange, hein, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, croyants, l'Église, hein, qui sommes restés, on va rejoindre dans les airs la secrète famille. Le Seigneur pourrait être toujours avec le Seigneur. Puis on revient sur le mont des Oliviers avec. C'est beau, ça? Persévérons, frères et sœurs. Et là, j'ai dit à André, je ne le chanterai pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de le chanter. Il m'a dit que oui, vu que je parlais. Mais je ne veux pas vous torturer avec le chant. Mais en faisant ça cette semaine, ce chant-là était dans mon cœur toute la semaine. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt, sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore de purs rayons du soleil éternel. Oh, louange, hein? Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. Deuxième couplet. Qu'autour de moi s'élève la tempête. Hein? Qu'autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix, car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon Sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Et le refrain revient. Troisième couplet. Regardez bien. Maison du Père. La révélation de Jésus. Votre Père qui est dans les cieux. Le meilleur des papas. Pas de défaut. Des pères parfaits. Il est là. Cherchez pas le Père parfait sur la terre. Il est en haut, le Père parfait. Maison du Père où ton amour m'appelle. Sainte cité, demeure des élus. Demeure des élus. Wow! D'où élu? Dieu vous a choisi. Les lieux qui éclairent une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Et le quatrième couplet, c'est le dernier. Bonheur ineffable. Là, il y a une gang qui dit « Ouais, mais c'est plate la vie, il y a plein d'épreuves, c'est plein de ci, c'est plein de ça. » Le bonheur ineffable, mes amis, n'est pas sur cette terre. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être le prophète de noir, mais la réalité, c'est un peu ça. La réalité, c'est que le bonheur ineffable est lorsqu'on va voir le Jésus face à face, on va devenir semblable à lui, on va avoir un corps nouveau, incorruptible, la présence du péché sera même plus là. Bonheur ineffable, que dans ta gloire, aux yeux des rachetés, tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours, tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul, à jamais. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. Gloire de ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Amen. Amen.